Jamais discuté auparavant l'égoïsme et le trait de caractère qui revient chez n'importe qui, peu importe notre tempérament fondamental et de base, l'égoïsme va toujours faire surface. Et qu'on avait vu, on avait terminé la dernière fois, au fait, l'un des grands problèmes de l'égoïsme, c'est celui de l'admettre. C'est toujours plus facile pour les autres de voir l'égoïsme chez nous que pour nous de le voir chez nous-mêmes, ou pour nous de le voir chez les autres que de le voir chez nous-mêmes. Et on va voir, on continue avec ce que le Seigneur nous aide, et toujours dans ce contexte de cette étude du Saint-Esprit en nous et du fruit que lui veut instaurer en nous, pas seulement malgré notre tempérament, mais avec notre tempérament. Que le Saint-Esprit est le traitement que Dieu veut nous donner, pas pour seulement lutter, mais pour vaincre les défauts de nos tempéraments de base, y compris celui de l'égoïsme. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bien comprendre. C'est que à plusieurs reprises, on voit différentes façons où ils nous disent « soyez remplis du Saint-Esprit », etc. On a vu en long et en large « contrôlé par »,« soumis à », au Saint-Esprit. Et l'une des raisons, il y a beaucoup de raisons différentes de pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il est appelé le grand consolateur, c'est l'une des grandes raisons. Il est également celui qui enseigne, etc. Mais c'est aussi pour instaurer, planter, faire mûrir son fruit, le fruit de l'Esprit en nous, qui va nous aider à vaincre. Pas juste lutter contre et avoir cette lutte constante, mais réellement vaincre les défauts de nos tempéraments. Et il faut qu'on arrive, de la même manière qu'on a du mal à admettre parfois qu'on a agi par égoïsme dans certaines situations, il faut qu'on arrive à avoir la foi de croire que oui, moi, je ne peux pas vaincre ces défauts, mais le Saint-Esprit peut. De pouvoir arriver au point où on se dise, il est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a qu'il ne lui est pas possible de faire? Et c'est pour ça d'où on comprend ce terme rempli de, qui parle de être sous le contrôle du Saint-Esprit, être soumis au Saint-Esprit. Pourquoi c'est tellement important pour pouvoir avoir la victoire? Parce que le Saint-Esprit apporte cette victoire. C'est lui qui va lutter pour donner la victoire sur ces choses. Comme on l'a déjà dit, Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a donné le tempérament que vous avez. Et je m'inclus bien entendu dans cette description. Souvent, les gens, au fur et à mesure qu'ils grandissent, même les chrétiens, j'aimerais avoir ceci ou être comme cela, et en parlant d'un autre genre de tempérament. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient la qualité d'un autre tempérament. Ils aimeraient garder leur qualité, mais également ajouter la qualité de l'autre. Ah, cette personne-là, elle parle facilement aux autres. J'aimerais pouvoir avoir cette qualité de pouvoir parler facilement aux autres. Ah, cette personne-là, elle est si patiente. J'aimerais pouvoir avoir cette qualité d'être patient avec les autres, avec facilité, etc., etc., etc. Mais Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a donné ce tempérament de base, prédominante, influencé par d'autres, mais il ne s'est pas trompé quand il vous a donné celui-là pour vous. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez dominé par les défauts de vos tempéraments, que vous avez, on va dire, hérédités, mais plutôt que vous soyez rempli du Saint-Esprit pour que vous puissiez utiliser pleinement toutes les qualités de votre tempérament. On ne va pas revoir, hein, on avait vu la dernière fois, si je revenais en arrière, tous les défauts de chaque tempérament. Mais il ne veut pas qu'on soit dominé par notre tempérament de base, quelle qu'elle soit, mais que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit pour que lui puisse utiliser pleinement toutes les qualités de notre tempérament. On sait, on est des enfants de Dieu, et donc on sait que le Saint-Esprit n'habite uniquement que dans la personne qui est née de nouveau, qui a reçu le salut en Jésus-Christ par la foi, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous comprenons qui est un fait. Hein. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. S'il n'habite pas en vous, ben vous ne vivez pas selon l'esprit, vous êtes toujours en train de vivre dans la chair. Vous n'êtes pas sauvé. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme ça, si la première phrase n'était pas assez claire, je vous le mets au clair, Dieu dit, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé. Donc, que quelqu'un dise, je suis sauvé, mais j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit, c'est faux. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas, vous n'êtes pas sauvé. C'est clair et net. Mais si vous êtes sauvé, l'inverse est vrai. Si vous êtes sauvé, alors vous avez l'Esprit, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez déjà fait l'expérience de vous humilier devant Dieu, de reconnaître que vous êtes pécheur, de reconnaître que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre péché de par vos propres forces, et que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Et vous vous êtes soumis à lui, dit « Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi, je sais que je ne peux pas faire de bonnes œuvres, je sais que je ne peux rien faire. » Et vous avez mis votre foi dans le sacrifice de Christ sur la croix et dans les promesses de Dieu, et il vous a sauvé. Et de la même façon, nous devrions pouvoir maintenant continuer à venir devant Dieu avec cette même humilité, reconnaissant que, Seigneur, je ne peux pas me débarrasser de ces défauts de mon tempérament tout seul. J'y arriverai pas. Je ne pourrai pas faire assez de bonnes œuvres qui vont contrefaire tous mes mauvais défauts de mon tempérament, toutes mes faiblesses, encore moins de mon ego. J'ai besoin de ton aide. Comme j'avais besoin de ton aide pour le salut, j'ai besoin maintenant de ton aide pour vaincre ces défauts de mon tempérament. Comprenons bien que le fait que nous ayons le Saint-Esprit en nous va faire toute la différence. Dans le monde, ils ont plein de programmes pour essayer de défaire et de changer les défauts de caractère des uns et des autres. Et ça va réussir jusqu'à un certain stade, jusqu'à un certain point. Et très souvent, ça régresse à un moment donné. Mais je suis persuadé que pas une seule journée ne passe pour le chrétien où le Saint-Esprit n'est pas en train de nous aider à vaincre notre ego ainsi que nos faiblesses, si seulement on voulait bien l'écouter. Ce n'est pas que lui n'est pas en train de parler, mais c'est que on a du mal parfois à bien l'écouter. Ce que nous faisons bien trop souvent avec le Saint-Esprit qui essaie de nous enseigner, d'avoir notre attention et qui essaie de nous prévenir d'un danger, on fait comme nous le faisons avec, en tant qu'enfant envers nos parents. Oh, je t'avais pas entendu. Vous savez comment c'est? On n'a pas besoin d'être dans une autre pièce de la maison et on appelle notre enfant. Rien. On peut être parfois juste de l'autre côté de la table ou à table et juste le canapé à côté, on les appelle, on se déplace, on les secoue. Hey, ça fait 3 fois que je t'appelle. Oh, je n'avais pas entendu. Je dis, oui, bien sûr. Parfois, ça peut être même pire. Je ne sais pas si vous avez fait le cas, mais on peut avoir notre enfant en face de nous, littéralement, on lui parle face à face, mais on voit dans les yeux qu'ils sont ailleurs. On leur demande, qu'est-ce que je viens de te dire? Il faut que je répète, ben non, j'ai rien entendu. C'est pas qu'ils n'entendaient pas, absolument aucune attention. Et on fait exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Je suis persuadé que le Saint-Esprit est continuellement en train de parler dans l'enfant de Dieu, dans lequel il habite. Et nous, on fait comme ces enfants envers les parents, on dit, je n'avais pas entendu. Excuse-moi, mais le problème majeur avec ça, c'est que nous sommes en train d'ignorer le fait que c'est ma responsabilité d'être à l'écoute. Tout comme c'est la responsabilité de l'enfant d'être à l'écoute de ses parents. C'est la responsabilité de l'enfant de Dieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et non la responsabilité du Saint-Esprit d'avoir mon attention. Ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. Si je n'entends pas, pour ainsi dire, le Saint-Esprit, c'est toujours de ma faute, et non parce que lui a oublié de me parler, ou n'a pas parlé assez fort, ou ne s'est pas fait comprendre. Non, c'est à moi d'avoir ça. on avait dit il y avait longtemps, hein, peut-être vous avez fait pareil, avec nos enfants, pour avoir leur attention, on ne va pas crier. Parfois, ça nous est peut-être arrivé sous le coup de la colère, mais ça, c'est notre faute. Mais dans la généralité, on se dit, on ne va pas crier pour avoir votre attention, on va vous appeler, on va s'assurer à ce qu'on vous appelle d'une manière normale pour que vous puissiez entendre et pas dire, bon, on va les appeler normalement, mais que c'est leur responsabilité d'être à l'écoute. On a déjà fait l'expérience ici, vous savez, ce que le pouvoir magique de tous parents, quand ils veulent avoir l'attention de leurs enfants, ils... Ah, et ouais, quand ça marche, mais ça, des fois ça marche pas bien. Et tu peux être dans une foule et ils entendent le claquement. J'ai intérêt à faire attention. Mais le fait est, c'est parce que c'est la responsabilité de l'enfant d'être à l'écoute. Et c'est pareil entre nous et le Saint-Esprit. Mais c'est bien plus que le Saint-Esprit. C'est pas seulement qu'il ait envie de nous aider. Mais je crois qu'on serait plus, que nous, on aura plus envie de faire attention à ce qu'il a envie de nous dire si on comprenait réellement, par la foi, qu'il est capable de nous aider à vaincre nos défauts. Que l'une des raisons de pourquoi on a du mal à l'écouter parfois, c'est qu'on est un peu défaitiste. Bah, de toute façon, j'y peux rien. Mais est-ce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? N'est-il pas donc par définition tout-puissant? N'est-il pas par définition parfait en sagesse? Parfait en connaissance? De par définition que le Saint-Esprit ne peut pas être vaincu par quoi que ce soit, encore moins par moi, un de mes défauts, de mon ego? Oui, il me laisse une certaine liberté où, si je refuse, il ne va pas forcer la chose, mais ce n'est pas lui qui est vaincu. C'est. Il respecte ma volonté, ça c'est tout autre chose. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être vaincu par quoi que ce soit. D'où l'importance que nous avons vu que nous avons également la capacité d'attrister ou même d'éteindre le travail que le Saint-Esprit veut faire en nous, n'est-ce pas? Surtout quand on se laisse aller à la colère ou à la peur. Et encore une fois, on ne dit pas qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère ou d'avoir peur, mais si on se laisse dominer par cette colère, si on se laisse dominer par cette peur, alors... La logique veut qu'il est également impossible qu'on se laisse dominer par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le droit de remettre en question ce que le Saint-Esprit nous dit quand il dit « Je sais, ne crains point, je suis avec toi. » Quand il nous souffle cela et qu'on l'entend, est-ce qu'on dit « Oui Seigneur, c'est vrai » et qu'on prend courage, qu'on prend force, ou est-ce que notre habitude c'est je sais, mais. Je sais, mais. Et on donne notre raisonnement sur pourquoi on a raison d'avoir peur ou d'être en colère. Alors, on va se dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? C'est des choses de base que la Bible nous enseigne tout au long des Écritures. Déjà, voir nos défauts comme un péché. Je ne parle pas de nos défauts. Du genre, je trébuche beaucoup, je suis maladroit. Mais des défauts qu'on avait vus dans la liste tout à l'heure, hein, de ceux qui... Et d'être colérique, d'être... On va en voir quelques-uns dans un instant, je ne vais pas m'avancer. Mais qu'on doit avouer, admettre, ce sont des péchés et pas juste essayer de trouver des excuses que d'avouer que nous avons tort. Et en tant que chrétien, on ne doit pas parler, agir ou penser comme le monde, n'est-ce pas? Le monde va toujours trouver des excuses. Même les psychologues, les psychiatres, etc., ils sont constamment en train d'aider leurs patients à voir que ce n'est pas leur faute. C'est leurs parents, leurs grands-parents, etc. Mais ce n'est pas la leur. Ils sont comme ça. Et c'est ce que le monde va essayer de nous faire croire aussi. C'est ce que notre chair va vouloir nous faire croire. Mais c'est pas ta faute. Tu es comme ça. T'es pas le seul. On va se dire, j'y peux rien. C'est pas ma faute. Je suis fait ainsi. C'est ma nature. Et nous savons que ce n'est pas le Saint-Esprit qui met ses pensées dans le cœur et dans la tête du croyant. Nous devons être rapides à accepter et reconnaître que mon égoïsme, mon manque de foi, Mes défauts sont des péchés et non juste. Ah ben c'est dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas et on n'a pas le droit de faire hein, l'autruche quand il s'agit des péchés dans notre vie. Nous ne devons pas oublier que la Bible n'est pas seulement une épée, mais elle est également un miroir, n'est-ce pas? Peut-être que je l'ai marqué. Oui, ah, je les ai mis. Jacques chapitre 1er, verset 19. C'est peut-être écrit petit, je ne sais pas. Mais comme il y en a beaucoup, c'est peut-être dur de faire plus grand. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisons. On revoit encore l'égoïsme. De se borner, de s'entêter, de ne pas vouloir l'écouter. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc il fait le lien direct avec la parole de Dieu et un miroir. On parle souvent de la parole de Dieu comme une épée, et c'est à juste titre. Mais la parole de Dieu est également un miroir pour le chrétien. Verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était, sauf que j'ai mis quelle il était. Désolé, j'ai pas. Pourtant, c'était copié-collé.
Je crois que c'est ça qu'il y a dans la.
Quelle était vrai? Je me disais, c'était copié-collé sur le sur l'application. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc il n'y a aucune faute, on ne peut pas blâmer la loi. La loi de la liberté, donc, ça ne nous restreint pas, ça ne nous, on n'est pas esclave. Au contraire, la loi nous libère et qui aura persévéré, donc ce n'est pas juste aujourd'hui et puis demain on verra, c'est dans la durée, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On en revient une fois de plus. Hein, il commence ce passage en parlant de la colère qu'on doit écouter au lieu de parler, humilité, maîtrise de soi. Il parle de l'importance de la parole de Dieu, de ne pas seulement connaître et d'approuver, de dire je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu enseigne, ça suffit pas, mais il met l'accent sur le fait que c'est primordial qu'on la mette en pratique. Et pour la mettre en pratique, il faut déjà la croire, qu'elle dit vrai, et faire de la vérité trouvée dans la parole de Dieu plus importante que ma volonté ou ma pensée, malgré mon tempérament et malgré mon ego. Par exemple, quand la Bible me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je lis ce passage en tant que chrétien, j'ai un choix à faire. Est-ce que je crois que ce verset est vrai ou non? Est-ce que je puis tout par celui qui me fortifie, non par moi-même? Et donc, est-ce que je crois que si je puis tout par celui qui me fortifie, que lui peut me donner la victoire sur mes défauts dans ma vie, même celui de mon tempérament de base? Si je crois que c'est vrai. Ben, cette connaissance ne sert toujours à rien si je ne fais pas ce qu'il dit au verset 22, de la mettre en pratique. Ah, je suis d'accord avec cette vérité, je crois que cette vérité est vraie, et puis je continue ma journée comme si rien n'était. Non, il faut que je la mette en pratique pour qu'elle me serve à quelque chose. Il faut que je prie, que je dise Seigneur, je veux me débarrasser de ces défauts. Je crois et je te fais confiance pour m'aider à me débarrasser de ces défauts. Parce que ce n'est pas juste des défauts, je les vois comme étant un péché contre toi et je ne veux pas que ça reste dans ma vie. Et je dois la mettre en pratique. Et dans la situation de notre étude, je dois croire que Christ, Dieu et le Saint-Esprit peuvent me rendre victorieux sur les défauts de mon tempérament. Et je dois accepter de voir les défauts de mon tempérament comme étant des péchés contre Dieu, de voir mon ego comme un obstacle qui est présent et que je suis responsable de cet obstacle. C'est moi qui ai mis cet obstacle. Et de demander pardon à Dieu pour mon péché. Un péché qui empêche le Saint-Esprit de me donner la victoire. Un péché qui empêche Christ de me rendre plus que vainqueur. Un péché qui par définition, coupe ma communion avec Dieu. Un péché qui n'est pas obligé d'être là et que je dois confesser comme tout autre péché dans ma vie. Tant qu'on refuse d'admettre que nous sommes, par exemple, coléreux, anxieux, rancuniers, amers, inquiets, égoïstes, tant qu'on refuse d'admettre que nous laissons la peur ou la colère dominer nos pensées et nos actions, nous n'allons pas pouvoir avoir la victoire, car nous essayons d'excuser nos actions au lieu de prendre responsabilité pour notre péché. On essaie d'excuser nos choix, on essaie d'excuser nos pensées, au lieu de les voir comme un péché qui offense Dieu et qui nous empêche d'être soumis et obéissants au Saint-Esprit qui est en nous. Quels que soient vos défauts, je vous encourage de faire ce premier pas. Et comme on dit souvent, le premier pas est le plus difficile, n'est-ce pas? Mais faites ce pas de géant s'il le faut, en direction de la guérison, en reconnaissant que c'est un péché. Parce que c'est seulement et seulement à ce moment-là que vous pouvez aller devant Dieu et vers Dieu pour recevoir son aide à travers le Saint-Esprit, pour être délivré de ces choses. Ça, c'est juste le premier pas, la première chose à faire. Voilà, merci. On verra, Dieu voulant, la prochaine fois les autres choses qu'on peut continuer à faire pour nous aider, pour être rempli de Saint-Esprit, pour être débarrassé des défauts de nos traits de caractère qui sont des péchés devant Dieu. Terminons là pour ce soir.